RCF.
Il est parfois question de la pensée de l'Église, publiée notamment à travers des encycliques. Et parmi ces grandes réflexions que mène l'institution depuis des siècles, il existe la doctrine sociale de l'Église. Ce sont des discours élaborés dans le domaine politique, économique et social, mais pas que des discours. Et en ces temps agités, rien de tel que de les relire, non pas pour y trouver une indication de vote, mais plutôt pour y chercher soi-même où se trouvent les grands enjeux, quels projets nous semblent vitaux. L'Église fait-elle de la politique? Pas vraiment, en tout cas, elle apporte une réflexion stimulante que vous avez approfondie. Frère Jacques-Benoît Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, vous êtes enseignant de théologie morale. C'est une matière qui parle de la façon dont l'Église est traversée justement par des questions contemporaines. Et vous dispensez ces cours au sein de l'Université catholique de Lyon. Vous êtes l'auteur du livre « Les frontières d'un discours, les papes et l'accueil de l'étranger » aux éditions du CERF. Et puis aussi d'un livre qui s'appelle « Découvrez la doctrine sociale de l'Église ». Avant d'aller voter, c'est également aux éditions du CERF. Et ça tombe bien parce que dans le tourbillon des médias et des débats médiatiques, c'est intéressant de relire comment l'Église a traversé justement les questions de son temps. Frère Jacques-Benoît Raucher, le terme « doctrine sociale de l'Église », ça peut parfois un peu effrayer. Et pourtant, ces textes s'adressent vraiment à tous les croyants. Ils sont à la fois très concrets et complètement inspirés de l'Évangile.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il ne faut pas peut-être se laisser impressionner par le terme « doctrine sociale de l'Église », mais ça dit quand même quelque chose de sérieux. Ça veut dire que le chrétien qui prend sa foi au sérieux, il ne peut pas se désintéresser des problèmes du monde. Il peut même s'appuyer sur une pensée qui est une pensée de très très long cours qui a été menée par l'Église, alors les papes depuis la fin du XIXe siècle, mais évidemment la pensée biblique, la pensée des grands auteurs chrétiens depuis des siècles, voire des millénaires.
Alors, doctrine, ça donne le sentiment que c'est quelque chose de ficelé, de figé, qui finalement traverse le temps, mais peut-être sans véritablement prendre en compte les grands questionnements et puis les troubles et les agitations et l'engagement aussi des chrétiens dans le monde. Est-ce que ce nom de doctrine reflète véritablement ce texte?
En fait, le terme de doctrine, il a été pas mal débattu, mais il a été repris par Jean-Paul II en 1987, quand il a redéfini cette doctrine sociale de l'Église. Et alors, il faudrait pas l'entendre comme quelque chose de figé. Hein, il y a bien des propos dedans qui dépendent des circonstances, qui dépendent aussi de l'espace culturel dans lequel on est. On ne peut pas parler du travail de la même manière au Burundi aujourd'hui et en France il y a 2000 ans. Voilà, ce n'est pas la même chose, hein, forcément. Mais il y a quelque chose qui n'est pas figé et en même temps, il y a la possibilité de s'appuyer sur une réflexion longue. Et en ça, je trouve qu'il ne faut pas non plus se dire que c'est quelque chose de négatif d'avoir une doctrine sur le long cours. Je crois que dans les temps troublés parfois où nous sommes, c'est bon aussi de pouvoir s'appuyer sur l'expérience de personnes qui ont réfléchi sur ces questions à travers les siècles.
Est-ce que vous diriez que c'est daté parce que, en fait, il y a eu des grandes étapes dans les derniers siècles et ces étapes ont permis de formuler cette pensée ou en tout cas ont fait naître ces réflexions. Est-ce que vous diriez que c'est justement un peu daté parce que si on reprend, on va dire, cette date que vous donnez pour le début, donc 15 mai 1891, en admettant évidemment qu'il y a toute la tradition précédente, celle des premiers apôtres et puis aussi celle de la Bible, mais ce 15 mai 1891, il vient marquer un moment précis. Est-ce que pour autant, ce qui se passe à cette époque-là et qui donne à Léon XIII l'envie d'écrire et de réagir, est-ce que c'est encore valable ou est-ce que ça correspond à une époque qui est déjà passée quelque part?
Alors, le 15 mai 1891, c'est la publication de Rerum Novarum, la première grande encyclique sociale d'un pape, Léon XIII, comme vous l'avez rappelé. Et il l'écrit en particulier dans ce climat très particulier de révolution industrielle, pour défendre, entre autres choses, la condition des ouvriers. Alors évidemment, c'est un climat qui est marqué par le contexte de la fin du XIXe siècle, mais défendre la dignité de la personne qui travaille, ça c'est une préoccupation de l'Église à travers tous les siècles et qui est encore très valable aujourd'hui. Donc oui, il y a des parties qui sont datées, mais l'intuition fondamentale, elle traverse les siècles.
Alors justement, on revient un peu sur ce qui a pu nourrir la réflexion. Il y a donc cette date que vous donnez, 1891, trois révolutions démocratiques, industrielles, communistes. Quelle va être l'audace de l'Église face aux politiques?
Alors, au moment de la fondation de cette doctrine sociale 1891, je trouve qu'il y a déjà une première audace pour l'époque. C'est que le pape lance cette doctrine parce que des laïcs qui sont engagés dans le monde industriel lui disent « Le monde a tellement changé, l'Église doit en prendre acte, doit prendre acte de ces changements. » Et je crois que c'est déjà une première audace si on se remet dans le contexte du catholicisme de la fin du XIXe siècle, peut-être assez marqué par une forme de hiérarchie. Il y a une vraie écoute. l'écoute de la compétence des laïcs sur ces questions-là. Et ça, je crois que c'est déjà une première audace de la doctrine sociale. Une autre audace, c'est de dire précisément, on a malgré tout quelque chose à proposer comme catholique, quelque chose qui n'est pas nécessairement une volonté de restauration d'un ordre chrétien, d'un ordre qui viendrait du Moyen-Âge, mais on a quelque chose à proposer pour inspirer le comportement des chrétiens, pour qu'ils jouent leur rôle dans un univers démocratique, sans nécessairement dire « on va vous donner clé en main des consignes de vote » ou « on va vous donner clé en main une constitution à appliquer ». Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau.
Ça peut être aussi un peu perturbant. Si on prend la question de la propriété privée, par exemple, elle arrive justement avec ce monde industriel de dire est-ce que c'est bien ou pas bien de posséder ? On doit tout donner, ça nous est dit dans les Actes des Apôtres, tout partager, le bien commun. Et puis en même temps, après tout, la propriété privée, c'est un espace aussi de liberté. Comment on peut articuler ça ? Et est-ce que la doctrine sociale de l'Église tranche ? Quelle voie elle trouve ?
Alors, il y a des choses qu'elle tranche, et je pense qu'on y reviendra à travers bien des exemples. Et puis, il y a aussi des éléments où elle donne des critères de discernement. Et ça, je crois que c'est très important de ne pas se dire que quand on donne des critères de discernement et non pas du prêt-à-penser, on fait la moitié du travail, où on est un petit peu une espèce de doctrine tiède qui serait proposée par l'Église. Je crois que si elle donne des critères de discernement, c'est aussi parce qu'elle fait confiance dans les capacités de discernement des personnes à qui elle les donne, ces critères. Et je crois que c'est quelque chose qu'elle fait assez régulièrement, c'est de ne pas forcément trancher toutes les questions, mais de dire sur le plan politique, sur le plan économique, et économique même de façon très concrète, sur la façon dont je gère mes propriétés, comme vous venez de le rappeler, même si elles sont toutes petites, il y a quelque chose où j'ai la possibilité, dans la situation où je suis, de discerner qu'est-ce qui est le mieux pour moi.
Frère Jacques-Benoît Rocher, quel va être le lien aux textes, donc les textes de la Bible, les textes des premiers apôtres, les textes des premiers penseurs, on pourrait dire chrétiens? Quel va être ce lien établi au fil du temps entre les papes et leur tradition?
Alors au tout début, c'est vrai que la doctrine sociale de l'Église, elle s'appuie plutôt sur une philosophie sociale, sur une philosophie sociale notamment issue du Moyen-Âge. Mais au fur et à mesure, les papes vont insister sur le fait que cette doctrine sociale, elle doit aussi beaucoup s'appuyer sur la conception que la Bible donne de l'homme. Et c'est vrai que dans la Bible, on a beaucoup de choses qui sont présentes sur le travail, y compris aussi sur l'accueil de l'étranger, même sur l'écologie. Voilà, donc c'est encore une fois pas des choses à appliquer aujourd'hui telles quelles, mais enfin qui peuvent nous inspirer.
Il y a beaucoup de choses, mais on pourrait vous rétorquer qu'on peut faire dire tout et son contraire à la Bible. On peut aussi lire l'Ancien Testament et puis trouver un peu autre chose dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on peut trouver une cohérence ?
Ben justement, je crois qu'il faut essayer de la chercher, cette cohérence. Il faut pas se dire que la Bible va nous la donner clé en main. Moi, je suis assez mal à l'aise quand je vois des chrétiens qui me disent « qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je suis fidèle à la Bible ?» ou « qu'est-ce que la Bible dit sur ?» La Bible, elle dit plein de choses et parfois des choses contradictoires. Et si les gens qui ont rassemblé les textes bibliques, les croyants qui ont lu la Bible, se sont dit au fond, on garde ces textes contradictoires devant les yeux, c'est parce qu'ils ont envie de dire « la Bible, c'est un lieu qui d'abord doit nous faire réfléchir ». Et je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur comme chrétien de ces contradictions qu'on trouve dans la Bible, mais il faut qu'on les accueille d'abord en se disant « mais qu'est-ce que ces textes-là ont à nous dire aujourd'hui ? Comment est-ce qu'ils nous invitent à réfléchir ? Comment ils sont une source d'inspiration, mais pas un espèce de décalque de comportement qu'on devrait appliquer clé en main ?»
Oui, vous le disiez, la Bible, ce n'est pas un programme politique.
Exactement.
Mais c'est tentant parce que c'est plus facile aussi.
Ah, ce serait beaucoup plus facile. Et moi, parfois, je me dis, ce serait quand même beaucoup mieux si du ciel tombait le résultat ou bien ce que je devrais exactement faire dans mon isoloir quand je vais voter dimanche prochain. Oui. Donc là, il y a quelque chose... Non, ce n'est pas facile, mais je crois que ça fait partie de notre chemin et du sérieux, au fond, que Dieu a de la manière dont chaque être humain a se comporté. Il lui laisse une marge d'interprétation.
Alors comment, justement... Entrer dans cette doctrine sociale de l'Église pour tout croyant, ce sont des textes accessibles, il faut le redire. Et pour autant, ce sont des textes qui sont d'une immensité, à la fois dans leur réflexion, mais aussi dans la quantité de textes. Donc, comment entrer dans ces textes pour un chrétien ?
Je crois qu'on peut y rentrer d'abord en regardant différentes thématiques qui y sont abordées. Si je m'intéresse par exemple aux migrants, si je m'intéresse au travail, si je m'intéresse à l'écologie, si je m'intéresse peut-être aussi à l'économie, comment est-ce que je peux regarder qu'est-ce qui a été dit sur ces sujets? Et ça, je crois que c'est parfois des portes d'entrée qui sont plus abordables que d'essayer de faire le tour, on va dire, de cette doctrine d'un coup.
Oui, parce que si on la présente, on va peut-être utiliser les termes qu'on entend souvent autour de la doctrine sociale de l'Église, mais qui finalement peut-être parfois peuvent nous rebuter. Il y a à la fois des valeurs, des principes et des socles.
Il y a effectivement quatre grands principes autour desquels tout s'articule. C'est la dignité de l'homme d'abord, c'est-à-dire le fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est la base fondamentale autour de laquelle tout doit graviter. Le bien commun, c'est-à-dire que quand j'agis, je dois me préoccuper de rechercher ce qui est bien pour moi, mais de rechercher aussi le bien de ceux et celles qui m'entourent. Et puis la solidarité qui rejaillit de ces deux dimensions-là, c'est-à-dire je ne peux pas me contenter de voir que des personnes vivent dans des situations de très grande précarité ou des situations où leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés. Et enfin la subsidiarité, c'est-à-dire qu'au nom de l'aide que je dois apporter aux autres, je n'écrase pas non plus la capacité qu'ont les autres de pouvoir créer, de pouvoir être autonome. Et je crois que ces quatre grands principes, ces quatre éléments qui structurent la vie et l'action du chrétien.
Alors avec vous, on va parcourir ces grands principes, mais on va le faire à travers des thèmes qui sont très concrets, qui sont dans le quotidien, dans l'actualité. Et on vous retrouve demain pour le faire. Je rappelle que vous êtes frère Jacques-Benoît Raucher, dominicain. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter » aux éditions du CERF. À demain.